Et bienvenue dans La Cabine Bleue. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 où on va parler de Unquiet Dead. Donc, je vous le rappelle, La Cabine Bleue, c'est le premier et unique podcast belge entièrement dédié à Doctor Who.
Bah oui, une fois.
Alors, je suis accompagné aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Tonton Sonde.
Salut, salut.
Et un nouveau collaborateur à la personne de John Thomas JT.
Bien le bonjour.
Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler du troisième épisode. Je vais éviter de bafouiller, du coup, je reprends ma phrase. On va parler du troisième épisode de la première saison du retour de Doctor Who, donc épisode qui s'appelle Unquiet Dead, épisode de la thématique horrifique.
Tout à fait.
Et comme on est super doué, on a réussi à rater...
L'occasion de le sortir pour Halloween, cet épisode.
Écoutez, hein, voilà. Un moment... faut pas nous prendre
pour... Il y a des fois on oublie les bonnettes, il y a des fois on oublie Halloween.
Oui, c'était pour une autre émission, on avait oublié les bonnettes.
On est quand même bien à l'avance pour 2017.
Oui, on est très à l'avance pour 2017, du coup, pour
c'est ça, l'organisation.
Les gens du futur qui nous écoutent.
Bonjour à vous, peuple du futur.
Et bon Halloween. Bon Halloween à l'avance ou en retard, peu importe. Alors, donc, mais avant toute chose, puisqu'il faut quand même respecter un petit peu nos traditions dans l'émission, n'est-ce pas?
Bah oui.
Puisqu'on a un nouveau collaborateur, on va passer en
la
vue...
La questionnade.
La questionnade, le questionnaire habituel des nouveaux collaborateurs. John Thomas, es-tu prêt?
Je le suis.
Ouh, petite tension. Alors, la première question. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. La première question, c'est quel est le premier épisode de Doctor Who que tu aies vu de ta vie?
Alors, mon premier épisode, ça remonte à plusieurs années.
Oui.
Et c'était pas vraiment... J'ai pas regardé l'épisode en entier. J'ai vu un bout de l'épisode.
Oui.
Je me rappelle plus du nom de l'épisode. Tu le connais sûrement.
Oui, ici, passe quoi?
C'est dans le monde parallèle, justement, avec les Cybermen.
Ah, oui. Oui.
Alors, justement,
comment il s'appelle celui-là? Ah, le trou.
Mais bon, bref, c'était simplement la séquence où justement les Cybermen arrivent en force dans le manoir. Et j'ai trouvé ça tellement kitsch que j'ai zappé.
Oh, c'est trop bien.
Et quelques années plus tard, tu m'as incité. Tu as un peu. Et alors, vu que je cherchais d'avoir des amis, je voulais des amis. Je me suis dit, ok, je vais lui faire plaisir.
Il nous faut des centres d'intérêt communs.
Alors, j'ai regardé Doctor Who. Donc du début
depuis 2005
du reboot,
donc
c'est ça,
ouais, le retour de la série, oui.
Et je suis désolé, mais je dois avouer que la première saison je l'ai subi.
C'est-à-dire subi, t'as vraiment pas aimé ça?
C'était désolé d'avoir soufflé, je suppose que c'est un truc qu'il faut pas faire.
Oui, mais ne t'inquiète pas, je te taperai sur la gueule après.
J'étais vraiment pas fan, j'ai pas accroché.
De toute façon, dans Doctor Who, il y a toujours un petit moment où on va subir la série.
Oui.
Voilà, pour moi, c'est la saison 6. La saison 7, pardon.
Ouais, la 6, c'était ça.
Oui, la 6, bien. Moi, c'était la saison 7, mais voilà, je pense qu'il y a toujours un petit moment où on va un peu être moins fan. Mais on va quand même continuer, parce que c'est Doctor Who.
En fait, oui, c'est le genre de série où en fait, tu vas te faire violence pendant un moment. Et à un moment, vraiment, tu passes de l'autre côté, t'es dans le délire à fond, quoi.
Et justement, passe à ta question numéro 2, peut-être que je vais pouvoir répondre à ce problème.
Le mec, il me dit comment faire mon animation. C'est incroyable.
C'est incroyable.
Et on en a viré pour moins que ça. Alors, ben oui, donc seconde question. Est-ce que tu as un docteur préféré?
Ah ben, je vais être très original. Très,
oui,
très original. David Tennant.
Ouh, l'originalité de malade.
Alors, moi, je ne suis pas d'accord.
Alors pourquoi voilà, parce que faut le dire, pendant toute cette conversation, j'étais très bloqué sur le fait que je n'arrivais pas à retenir sur le nom de l'épisode avec Cybermen dont tu parles dans,
oui,
l'univers parallèle. C'est Rise of the Cybermen. Et en fait, c'est un double épisode et le second, c'est The Age of Steel. Et on en a parlé dans la première émission, puisqu'on a parlé du chien de Jackie.
I've got
de Jackie.
The Age of Steel.
I've got balls of steel, c'est ça que tu dis?
Ouais, c'est ça.
Okay.
Un petit jeu de mots, voilà.
Donc voilà, donc David Tennant.
Alors pourquoi justement, c'est l'épisode spécial de Noël, justement, entre la saison 1 et la saison 2.
Donc le premier épisode de David Tennant.
Oui, voilà, exactement. Et c'est cet épisode-là qui m'a dit, ok, j'aime Doctor Who.
Mm-hmm.
C'était vraiment l'épisode du... Je connaissais le principe, on m'avait expliqué un peu, c'était un alien qui change d'apparence quand il se régénère, il change de personnalité.
Oui, enfin mais... de personnalité, oui, oui. Enfin, il y a des éléments qui restent constants d'une régénération à l'autre.
Oui.
Comme le côté...
vraiment... Sa mémoire, entre guillemets, non ?
Sa mémoire, Capaldi perd un peu...
Son côté philanthrope.
Oui, enfin, tourner vers les autres, sauveur, ce genre de choses.
Mais justement, dans cet épisode-là, Tennant va sortir tout un discours, à la fois un peu marrant et sérieux, entre guillemets,
oui.
Où justement, il explique ce problème de... Il ne sait pas qui il est. Est-ce qu'il est sérieux ? Est-ce que c'est un lâche ? Est-ce que c'est un aventurier, un séducteur ? Et
oui,
j'ai adoré cette séquence.
Il questionne son identité de docteur.
Voilà, exact. Et c'est ça, ça m'a... Ok, je suis fan de ce personnage.
Mais ça arrive aussi sur les autres. Hein.
Oui, mais là, c'est un peu la première fois. Quand tu regardes, quand tu commences en 2005...
En tout cas, du point de... Oui. Enfin, il y a un petit peu au début. Regarde quand il se regarde dans le miroir dans le premier épisode avec Colston.
Tu remarques qu'il y a de nouvelles oreilles.
Oui, et pas n'importe
quelle. Et quelles oreilles ?
Franchement, c'est fou.
C'est incroyable.
Alors, je pense que ici on a fait un peu le tour de cette question-là, par si tu as un élément supplémentaire à apporter.
Non, ça va.
Donc, question suivante. Est-ce qu'il y a une période de Doctor Who, une saison ou un épisode vraiment que tu aimes vraiment énormément, ou vraiment pour toi tu peux te dire bah c'est mon épisode préféré ou ma saison préférée ou mon époque préférée?
Ben, je vais rester sur ma réponse précédente. C'est un peu la période David Tennant.
Ouais, c'est logique.
Bon, je suppose que je suis pas original du tout à ce niveau-là, mais c'est pas il y a le côté.
Ben, c'est un peu un préféré
de beaucoup de personnes.
On regardait hier des
même
des
ta grand-mère vidéos. Là, même ta grand-mère aime David Tennant, c'est dingue.
Tout le monde aime David Tennant. Mais d'ailleurs, hier, on regardait des vidéos en public de reprises par un orchestre de musique de Doctor Who. Et quand David Tennant apparaît, parce qu'il y a pendant la pièce musicale, il y a diffusion des différents moments de régénération du Docteur. Et quand David Tennant apparaît, c'est là et avec Tom Baker que le public vraiment hurle. Hurle de joie de voir ce personnage-là. Et ça se calme un peu pour les autres, ce qui est un peu dommage parce que...
Oui, mais il montre que juste Matt Smith après David Tennant.
Oui, parce qu'en fait, quand il y avait eu le concert, Capaldi n'était pas encore...
Mais je sais pas, pour moi, mes épisodes un peu préférés étaient avec David Tennant. Et, oui. Et un peu ce côté, on le découvre au début, on essaie de comprendre qui il est. Mm-hmm. Après, c'est vrai, on comprend, ok, c'est lui, il est comme ça. Et quand il apprend qu'il va mourir, t'as tout ce côté, enfin, qu'il va se régénérer bientôt.
Oui.
Tu vois un peu tout ce côté un peu psychologiquement, il change. Tu vois que j'ai pas envie de partir, j'ai pas. Même cet épisode-là de Water on Mars, je pense que c'est ça le titre de l'épisode.
Mais c'est là où, en fait, il va prendre des décisions
oui.
Qui vont mener à un paradoxe qui, du coup. Comment dire ? Vont mener forcément à la fin de sa vie, à la fin de la vie de ce dixième docteur.
Mais il vient à se dire, il avait tous des principes de base, et là il va dire, merde quoi, je suis le docteur, je fais ce que je veux. Bon, il va avoir des...
Mais je pense pas vraiment que c'est ça qui... Je comprends ce que tu veux dire, hein, mais je pense pas vraiment que c'est ça... Mais plus dire, ça vaut peut-être le coup de tenter.
Oui.
C'est plus ça en fait, c'est se dire, j'ai ce pouvoir-là, je sais qu'il y a des points fixes auxquels il faut pas toucher... Mais est-ce qu'on ne peut pas tenter de temps en temps quelques écarts ?
Mais alors maintenant, le Matt Smith, j'ai aussi beaucoup aimé. Mais je pense que personnellement, ma période préférée, c'était David Tennant.
Ouais. Alors, question suivante du coup. Alors que Tonton Sand reste sans voix.
Oui.
Pas très loquace aujourd'hui,
qu'est-ce qui se passe ? Oui, écoute, je posais la question du coup, vu que tu digresses, tu digresses, tu digresses. Est-ce que tu as une race favorite, un petit chouchou parmi toutes ces races?
Alors, est-ce que j'ai le droit de dire les Time Lords?
Oui, c'est vrai que tout le monde pense un petit peu à toutes les races aliens qui ne...
Avec des têtes improbables.
Avec des têtes totalement folles. Mais c'est vrai qu'il y a les Time Lords, oui.
J'aime beaucoup les Time Lords. Mais déjà, niveau...
Donc les Gallifréens, hein, mais bon, ça. C'est vrai que c'est les Time Lords, c'est comme ça qu'on les appelle.
Mais déjà, niveau... quand ils réfléchissent en dehors de la série, scénaristiquement...
Mmh.
Je veux dire, je peux changer d'acteur à tout moment, de personnalité. Je veux dire, je peux relancer je peux garder le même personnage, mais le relancer et le rendre d'un nouveau intéressant s'il devient un peu redondant, entre guillemets.
C'est sûr que c'est pas le relaunch de MacGyver. Hein.
Ah, le taunt.
Sinon.
Ah, mais c'est incroyable ce truc. Faut qu'on en parle.
C'est incroyable.
Enfin, on en parle. C'est pas le thème de c'est pas la thématique mais de l'émission. Du coup, on va pas en parler. Mais ouais. C'est fou. On en parlera un jour dans l'antidote à l'ennui.
On peut faire une nouvelle série qui s'appelle l'homme au mulet.
L'homme au mulet. Mais on a parlé de toutes les séries où il y a des hommes au mulet.
Voilà, on fera un podcast spécial MacGyver qui s'appellera le couteau suisse rouge, voilà, pour rester dans le thème objet couleur.
Objet ou lieu.
Non, sinon une race, peut-être les Silence.
Ah, cool.
Des aliens en smoking, tu les vois, tu paniques, mais une fois que tu tournes la tête,
tu les oublies,
je trouve ça génial, entre guillemets.
Ouais, c'est plutôt très cool, mais ça reste un peu dans le même concept que les Weeping Angels, c'est-à-dire Moffat, à la création de ces personnages, en fait, a déclaré qu'il voulait créer des monstres qui pouvaient se jouer dans la cour de récré pour les gamins. Tu vois, faire semblant. En fait, c'est genre, t'as pas besoin. Tu peux très bien être la victime sans qu'il y ait quelqu'un qui fasse le méchant. Parce que forcément, si tu les oublies... La même chose pour les Weeping Angels, c'est la même chose. C'est « Ah, il faut pas qu'on ferme les yeux, faut pas qu'on cligne des yeux, parce que sinon... »
Oui, ou même un touche-touche, quoi, basiquement.
Oui, c'est ça. En fait, c'est basé sur les jeux de gamins dans les cours de récré, quoi.
Mais les Weeping Angels, moi, ils m'ont foutu les pétoches. Hein.
Ouais, on va y revenir plus longuement quand on abordera les épisodes qui les concernent.
Tout à fait. D'ailleurs, j'avais une proposition à faire. C'était que... Donc, on arrivera à cet épisode-là dans quelques podcasts déjà.
Oui, on a le temps de vous revenir.
On regardera avant le film Dans le noir. Parce qu'il échoue là où cet épisode réussissait. Et c'est dingue, quand même.
C'est un principe relativement proche, mais...
C'est un principe simple et très ludique. Et pourtant, certains échouent. Et ça, monsieur, c'est incroyable.
Oui, mais ça peut être éventuellement intéressant de faire une petite capsule pour un peu comparer ce que eux tentent de faire. Et écoute, tu en prends note.
Oui, c'est déjà fait.
Tu nous en reparleras à ce moment-là. Je vous propose de partir dans le débat de la semaine, si ça vous va.
Mais tout à fait, monsieur.
Alors, le débat de la semaine, on en a parlé un petit peu avant. Vous voulez partir sur le débat
du compagnon d'un jour, d'un épisode.
Oui, donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait parler éventuellement de ces... de ces personnages qui vont suivre le docteur, qui vont accompagner le docteur et Rose Tyler et Mirori lors d'une seule aventure, ou en tout cas un très petit nombre d'aventures. On parle bien sûr des personnages qui ne sont pas véritablement récurrents, donc on ne va pas parler de Jack Harkness, on va parler de Mikey, on va parler de personnages comme ça. On va plus parler de personnages qui apparaissent qu'une seule fois, tout comme par exemple pourrait citer Gwyneth, qui est le personnage qui apparaît dans l'épisode Unquiet, épisode qu'on abordera plus longuement dans la suite de l'émission. Mais voilà, est-ce que il y a des personnages comme ça qui, de prime abord, vous ont donné envie d'un peu plus découvrir ce personnage?
Mais on a dit son nom juste avant, donc avant d'enregistrer, j'ai oublié, je vais dire James Gordon, tu sais ce que je veux dire par là.
C'est James Corben, donc c'est un animateur de télévision... anglais, c'est un peu une sorte de... c'est presque une insulte, mais Jimmy Fallon, anglais. Du coup, en gros, c'est un truc qui, moi, ne me plaît pas du tout. Mais qui apparaît dans deux épisodes avec Matt Smith.
Oui, deux.
Et qui est un personnage tout à fait sympathique.
Oui, mais je m'attendais vraiment à ce que... Mais justement, c'est une période où il n'avait plus de compagnons. Et je me disais vraiment, il va devenir ce compagnon.
C'est à la période où...
Si, il y a toujours un compagnon. Hein.
À ce moment-là? En fait, c'est à la période où
Emi et Rory s'installent chez eux. Donc il n'a plus de compagnons techniquement. Non, les deux. Parce que Smith, il a toujours eu, entre guillemets, des compagnons, même si à un moment ils font une pause. Mais il n'y a que Tennant qui passe une presque saison sans compagnon.
Oui, c'est une saison de transition. Ils ont fait une saison un peu avec des épisodes spéciaux qui étaient espacés. On n'avait pas un par semaine, mais ils étaient espacés sur toute une année. Il y avait assez peu d'épisodes. Mais oui, c'est. C'était la transition avec la fin de sa saison, quoi.
Ouais.
Est-ce que toi tu en as d'autres? C'est celui-là qui était très sympathique, mais ouais, pourquoi justement, parce que oui, on va pas passer à un autre, mais pourquoi justement tu le trouvais intéressant avant de passer à un autre?
Bah, déjà c'était un homme, je pense pas qu'on avait eu d'homme compagnon avant. Oui, si. Ici il y avait Mickey, mais
si, on en avait eu plein. Enfin, ça dépend, je que tu par compagnon, on en a eu plein. On peut considérer le père de Rose comme un compagnon finalement.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Dans Father's Day, on peut considérer le mec dans l'épisode d'Alec.
Oui, l'insupportable intello.
Petit
oui.
Trou du cul. On peut considérer également qu'est-ce qu'on a
le grand-père de
le
Donna.
Grand-père, mais lui il est plus récurrent. Il est plus récurrent. N'hésite pas à parler dans le micro. Si tu ne parles pas dans le micro, tu n'existes pas. Et si tu n'existes pas, tu es viré de l'émission. C'est simple.
Ouais. Et puis on est fou aussi, parce qu'on parle à quelqu'un qui n'existe pas. Et ça, c'est incroyable.
Donc, quand tu dois dire quelque chose, c'est dans le micro. Je sais que, bon, au niveau technique, on a deux micros pour trois personnes, là. Ce qui est un peu compliqué, mais ça va bientôt changer. J'espère.
Dans un futur proche.
Donc, on a parlé de ce personnage-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous tiennent à cœur?
Mais ce ne sera pas un avis... à mon avis, qui aura de la cote. Mais voilà, Kylie Minogue. Dans l'épisode Titanic.
Voyage of the Damned, ouais. Qui est un épisode spécial entre deux saisons.
C'est ça. Ou, enfin, c'est pas vraiment... Donc, je l'aime bien parce que c'est un épisode que j'aime bien.
Oui.
Parce qu'il y a Alonso dedans. Et ça, c'est incroyable.
Allons-y, Alonso.
Voilà. Non, je la trouvais... Je trouvais sa performance rafraîchissante au sein de l'épisode.
Mais c'est un épisode sympa.
Oui, bah, pour moi, ça, c'est un épisode typique Doctor Who. Tu vois, un épisode de milieu de saison typique. Tu vois, un truc où...
Ouais, mais il chamboule rien, quoi.
C'est ça. Bah, oui, c'est ça. Bah, un épisode... Tu vois, quand je pense à Doctor Who, je pense à ça. À ce genre d'épisode.
Ouais. Ouais.
Et donc, ça, voilà.
Je suis moins emballé par l'épisode en lui-même. Je parle de l'épisode.
Ouais, ouais.
Ouais, je sais pas, je... Je suis pas fou de cet épisode-là.
Sinon, un autre personnage qu'on voit pas beaucoup, et je pense qu'on n'en parle pas très bien, c'est cette tête de Cyberman.
Ah, c'est Handel qui l'appelle ? Quelque chose comme ça ?
Ah, oui.
Oui, mais ça a été... on l'a presque oublié, quoi. Et c'est un peu dommage, parce que c'était une bonne idée, justement, d'avoir cette tête de Cyberman qu'ils prennent par le... par l'arceau. C'est enfin, ça, ouais. C'est pas vraiment un arceau, mais ça ressemble à ça. Oui, c'est un peu dommage que ça n'a pas été plus exploité que ça, alors que il y avait du potentiel, je trouve, justement, en plus d'apporter ce côté ah ben c'est un méchant, c'est pas un méchant, ça donnait un petit peu un côté Slimer dans Ghostbusters.
Ouais.
Oui, c'est un peu dommage. Est-ce que je peux vous en citer un, moi, à mon tour?
J'ai envie de d'en apporter un peu plus excitant.
Oui.
C'est le Hood Alpha ou le Hood Omega, je ne sais plus.
Ah, le Hood qui suit David Tennant sur la fin de sa...
C'est ça.
Enfin,
de son cycle.
Oui, de son cycle de 10e Docteur.
Eh ben, moi, ça me vachement fait plaisir d'avoir. Il chante.
Enfin, les Hoods chantent.
C'est ça. Et ça me vachement fait plaisir d'avoir un compagnon Hood, je trouve, enfin, au sein d'une petite communauté de compagnons, quoi. Genre, on aurait eu. Plus de des compagnons humains, parce que c'est utile à la narration, enfin c'est même obligatoire à la narration. Et on aurait eu le Hood Omega ou le Hood Alpha, je ne sais plus.
En fait, c'est plus simple d'avoir un compagnon humain,
ouais.
Parce que par rapport au scénario développé dans Doctor Who, la place de l'humanité fait que là où ils vont atterrir, on connaît l'humanité.
Ouais.
Et du coup, les gens vont pas être surpris. Si maintenant tu veux faire une aventure qui se passe avec Charles Dickens, par exemple, comme c'est le cas dans l'épisode dont on parlera après, si tu viens avec des Hoods, c'est la panique. Je veux dire, il va y avoir.
On n'a qu'à dire que c'est un type qui mange des spaghettis, voilà, après, c'est fini.
Mais tu vois, ça va créer un petit scandale. Il va y avoir des émeutes dans les rues. Et personne ne veut d'émeutes. En 1869, personne.
Personne ne veut d'émeutes. Et ça, c'est triste.
Des crémeux.
Ah, ça, non, personne n'en veut.
Moi je vais vous citer il y en a forcément beaucoup que je trouvais fort sympathiques, moi il y en a un qui m'a ces derniers temps beaucoup mais vraiment beaucoup marqué. Je discutais en live pendant la diffusion d'un épisode donc de la dernière saison, la dernière ou celle d'avant, enfin en tout cas c'est un épisode de Capaldi, c'est l'épisode Before the Flood, donc c'est Under the Lake et Before the Flood, donc c'est un double épisode, et il y a cette jeune fille qui s'appelle O'Donnell, donc son nom de famille, et que j'ai trouvé très sympa. Et en fait, la cohésion avec le docteur fonctionnait tellement bien. Elle avait du courage, elle avait elle avait de la curiosité, elle avait un petit peu un côté un peu frais, jeune, mais sans vraiment être trop jeune, genre, elle avait genre une trentaine d'années. Ça fonctionnait super bien, si bien qu'à la fin, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Il se passe quelque chose avec ce personnage, qui fait qu'on la verra plus.
Je me souviens parfaitement, même juste après l'épisode, je t'ai contacté en te demandant si ça va pas devenir la nouvelle compagnon.
Ouais, et en fait, à la fin du premier, du double épisode, ouais. Et alors, quand tu regardais sur les réseaux sociaux, même chose, moi je me suis dit à la fin du premier épisode, vu que c'est un double, j'ai été voir et les gens étaient fous, genre, ah mais c'est ça en fait. C'est pas genre, on a envie que ce soit elle, mais genre, ça fonctionne. C'est pas genre, nous on a envie que notre compagnon ce soit ça, ça, ça. Non, non, là c'est là, si parmi tous les personnages qu'on a vus depuis le début de la série, il y en a un avec qui ça devait fonctionner, c'était ce personnage-là. Et si bien que quand ça n'a pas été plus loin, c'était une grosse déception pour tout le monde. Et dont moi j'ai vraiment été déçu de voir, ah ok, alors que c'était exceptionnel, quoi. Il y en a bien d'autres, mais
plus exceptionnel que Clara.
Mais il y a beaucoup de choses qui sont plus exceptionnelles que Clara, je veux dire.
Les patates au gratin.
Oui, mais déjà les patates au gratin, c'est mais je veux dire, si le docteur se promenait avec un chandail en laine, ce serait déjà plus exceptionnel que Clara.
Mais ce serait vraiment fou.
Ce serait exceptionnel, en effet.
Et moi, j'aurais bien voulu aussi revoir, c'est la fille du docteur.
Ah oui, qui est jouée par la femme de David Tennant.
Ce qui est un peu glauque en soi.
Qui est un peu étrange, c'est un peu. Qui est d'ailleurs la fille d'un autre docteur. Si je ne sais pas, c'est Peter Davison. Et qui est en fait... donc l'actrice, la fille de notre docteur, et elle a marié un docteur. Et du coup, David Tennant, lui, est le beau-fils d'un docteur.
Attends. David Tennant s'est marié avec la fille d'un docteur.
Oui.
Elle va jouer sa fille.
Oui. Du coup, il joue le père.
Mais c'est sa femme.
Du coup, mais qu'est-ce qui se passe?
Oh là là.
Oui, donc...
On croirait une histoire de famille de Français du Nord.
Oui.
Je flime les Français du Nord, mais...
Hein, on est encore plus au Nord.
On est plus au Nord que les Français du Nord. Donc du coup, ça s'annule.
Oui. Oui, les arguments sont là, hein, je vois.
Ah oui, mais clairement.
Alors, est-ce que vous avez d'autres éventuellement à citer?
Non, du tout.
Il y en a beaucoup
qui sont... Oui, il y en a énormément, mais...
Il faut vraiment marquer ce...
Sur le coup, il y a des fois, on va en voir un épisode, et je vais me dire, ce serait bien qu'elle accompagne cette personne-là. Et puis, au final, on se rend compte qu'il n'était pas si... si fou que ça. À l'instar de Kylie Minogue, parce que c'est quand même Kylie Minogue.
Bordel de merde.
Il y en a peut-être une dernière personne, et je vais en parler parce que je sais bien que c'est un épisode que tu as beaucoup aimé aussi.
Oui.
Par contre, tonton, tu m'excuses, je ne me rappelle pas de l'épisode, du nom d'épisode. Je me rappelle de l'épisode, bien sûr, mais pas du nom d'épisode.
Et c'est avec Capaldi?
Non, c'est avec Tennant.
Bah alors, ça va.
C'est cet épisode où justement ils sont dans un vaisseau et ils sont en parallèle avec cette comtesse, cette femme noble.
Ah, mais bah oui,
grenouille.
Oui.
Renette, pardon.
Madame de Pompadour.
Mais oui, c'est fou.
Donc c'est Girl, voilà, in the Fireplace.
Ah oui.
Mais non.
Et si on prend des gens exceptionnels comme ça, on pourrait aussi prendre...
Oui, mais je les aime beaucoup, mais je les reverrai pas. Je trouve que c'est autocontenu.
Ouais.
Et c'est génial. Mais oui, c'est exceptionnel. Tout comme...
La fille dans
Blink. Avec, comment
dans
ça
Blink,
s'appelle.
Oui. Oui, c'est exactement à elle que je pensais. Mais oui, ça aurait été formidable.
Ça aurait été formidable si c'était elle.
En fait, elle aurait pu virer Martha. Ça aurait été bien.
Ouais, mais Martha...
Oui, on a déjà dit,
on a déjà dit qu'on a un avis qui a beaucoup évolué sur le sujet.
Mais justement, cet épisode-là avec The Girl in the Fireplace, c'est ça?
Oui.
Est-ce qu'on peut pas... On ne retrouve pas un peu ce parallèle avec Matt Smith et Amy, dans un sens où il la rencontre quand elle est petite?
Ah oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire.
C'est le premier épisode qui joue réellement intelligemment avec les problèmes du voyage temporel et de...
Mais le premier, non, pas vraiment, il y en a eu avant qui proposait des choses, comme par exemple l'erreur de voyage dans le temps au retour de Rose qui arrive 2 mois plus tard, tu vois.
Oui, oui, mais là c'est pas encore grave. Si sa maman avait décédé entre temps, là ça aurait été grave, tu vois, genre 15 ans après, sa maman est plus là ça aurait été grave.
Oui, tandis que là, en fait, il apparaît quand elle est petite, elle se souvient de lui toute sa vie, et puis il revient là où c'est plus ou moins la fin de sa vie.
C'est ça.
Dans Girl in the Fireplace. Enfin, plus ou moins la fin de sa vie. Les risques
de
la fin de sa vie. Oui, écoute, en effet, c'est un parallèle qui est plutôt intéressant. Et Madame de Pompadour, au-delà de son... Comment dire de sa personnalité historique.
Oui.
Parce que forcément, on n'essaie pas de tordre la réalité. Je veux dire, un personnage, on le voit avec Charles Dickens,
oui,
dans l'épisode dont on va parler aujourd'hui, mais il ne peut pas devenir autre chose que ce qu'il a été dans notre histoire. Parce qu'à la base, Doctor Who, c'est aussi quelque chose qui essaie d'apprendre l'histoire aux gamins. Et du coup, ça aurait été intéressant, mais ça n'aurait pas été possible de par l'identité de l'émission. Mais en effet, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un perso qui a beaucoup joué. Comme par exemple dans Human Nature.
Oui.
Donc, je vois que tu plisses les yeux, JT. C'est l'épisode dans lequel le docteur enferme sa condition de Time Lord dans une montre. Et
il devient professeur dans un collège privé pour garçons.
Dans les années 30, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale.
Ça fait partie d'un de mes épisodes préférés, justement.
Okay. Je l'ai revu il y a peu de temps, genre il y a un mois ou deux.
Des gamins de 7 ans qui tirent à mitrailleuse.
Ils ont un peu plus.
C'est pas vraiment ce côté-là qui m'a plu, c'est vraiment le principe du... il va dans une autre époque, il s'oblige à être humain, entre guillemets.
Oui, pour la sécurité, sa propre sécurité ainsi que la sécurité de l'humanité.
Oui, enfin, à la fin de l'épisode, tu vois qu'il dit plutôt c'est pas pour vous fuir que je l'ai fait, c'est justement pour vous protéger parce que je vais vous faire des sales trucs à la fin. Mais c'est pas ce côté du... À la fin, il hésite, il dit...
Mais c'est pas lui qui hésite, c'est sa nouvelle identité. Oui. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est une nouvelle identité, ce n'est pas le docteur. C'est une nouvelle identité qui a été générée à l'abandon de son humanité. Enfin, pas dans son humanité, de sa... Oui, de son immortalité, de sa condition de Time Lord. C'est quand il devient humain.
Et ça a pu permettre d'intégrer un élément pour... introduire un nouveau personnage que j'ai beaucoup aimé, que je vois ta tête.
Parce
que
tout de suite après, quelques épisodes après, on a l'épisode Utopia qui reprend ce principe, mais avec le Master.
Oui.
Ah oui.
Mais on citait cet épisode pour parler de cette jeune femme, c'est Jeanne, je crois, dont le docteur humain tombe amoureux. Qui aurait pu éventuellement, moi je ne trouvais pas ça spécialement intéressant, mais qui aurait pu éventuellement marquer le coup.
C'est vrai.
Moi, j'ai pas aimé ce personnage, mais bon, ça c'est moi. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnages comme ça qui peuvent marquer. Et on en parlait l'émission précédente, je crois, dans celle d'avant. On ne doit pas sauver des personnages parce qu'ils sont intéressants.
Faut pas
ne tuer que les personnages jetables, entre guillemets.
Faut pas tuer les tokens, quoi. Pas que.
Ouais, en fait, il faut vraiment considérer. Une histoire si ça sert l'histoire mais que c'est un personnage intéressant, faut pas dire je vais le sauver absolument pour parce que j'ai jamais écrit un personnage aussi intéressant. Non, et c'est pour ça aussi que à mon avis ils ont tiré sur la corde avec Clara, parce qu'ils se sont dit c'est le personnage le plus intéressant qu'on ait jamais écrit.
Sauf que non, parce que non,
pas du tout, c'est l'un des moins intéressants. Et quand on arrivera à parler des bilans de saison de Clara, on développera sur pourquoi ce personnage est un échec.
Ouais.
Est-ce qu'il a été un échec tout le long de...
Non, le début était très très bien. Le seul problème, c'est qu'ils ont essayé un petit peu.
Il y avait des clafoutis.
C'était des soufflés.
Je sais, il se transformait en clafoutis.
C'était des soufflés, monsieur. Parce que c'est soufflé girl.
Mais oui.
Mais oui, enfin, on en parlera de manière plus. Ne rions pas les étapes. Hein. On fera. Des émissions, je pense, spécifiques sur certains compagnons, je pense que ça. En tout cas, prévoir dans les émissions des moments particuliers, peut-être même à la place des débats, pour vraiment parler profondément de certains personnages.
Dernière apparition de ce personnage en tant que compagnon.
On pourra en faire éventuellement le bilan. Tout comme en fin de saison, on fera un bilan de saison dans une émission que je suis en train de préparer.
Sacré.
Vous allez me dire déjà, mais il nous reste encore une multitude d'épisodes avant la fin de saison. Oui, mais c'est parce qu'il n'y aura pas seulement que le bilan. Il y aura des événements.
Incroyable. Des mini-jeux ?
Je ne réponds pas à cette question, monsieur.
Il y en aura, du coup.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez apporter avant qu'on parte éventuellement
de la pastèque.
De la pastèque. Apportons de la pastèque.
Voilà.
JT, est-ce que d'autres éléments que tu veux apporter ?
Non. Je te le dis dans le blanc des yeux.
Dis-moi dans l'oreille, parce que mes yeux n'entendent pas beaucoup. Eh bien, très bien, moi je vais vous parler d'une petite chose avant de partir sur la critique de l'épisode qu'on a vu.
Tout fait, monsieur.
Il y a peu a démarré le dernier spin-off qui concerne Doctor Who. Donc c'est un spin-off qui s'appelle Class, qui est dirigé en tant que showrunner par Patrick Ness, donc ça c'est un auteur de littérature adolescente qui a eu un succès relatif en Angleterre, au Royaume-Uni. Et donc on lui a confié ce nouveau spin-off qui avait pour but de proposer un spin-off orienté vers l'adolescence. On suivait un groupe de jeunes dans Cole Hill, enfin en tout cas c'est l'école dans laquelle travaille Clara.
Ouais.
Et j'ai vu les deux premiers épisodes.
Et qu'en as-tu pensé du coup?
Bon, je vais un peu vous situer ce qui se passe. Vas-y. Ce qui se passe, c'est qu'il y a dans cette école une faille, Rift. D'ailleurs, il y en a une belle dans l'épisode dont on va parler aujourd'hui.
C'est vrai, oui.
C'est un peu un récurrence. En gros, il n'y a pas seulement des aliens qui font le voyage via l'espace.
Il y a des failles vers tout.
Vers tout et n'importe Basiquement. Quoi. Et qui est un peu à la base de beaucoup de choses. La période avec Matt Smith se construit autour de ça.
De là à appeler ça un Deus Ex Machina, il n'y a qu'un pas.
Non, mais ça, c'est intéressant. Torchwood est entièrement basé. Torchwood, où Jack Harkness travaille, et leurs bureaux sont placés sur une faille. Volontairement, pour pouvoir profiter de
Qui recharge le TARDIS.
Qui recharge le TARDIS, entre autres, mais qui permet une multitude de choses. Et donc, en fait, dans cette école, va se constituer un groupe de personnes, de cinq personnages, constitué. Alors là, j'ai trouvé ça intéressant puisqu'on avait une black, donc super, génial.
Deux minorités en une.
Donc une black surdouée.
Oui.
Donc elle est un peu plus jeune que le reste du groupe qui ont plus ou moins 17-18 ans. Elle est là, genre 14-15 ans. Y a une fille un peu mignonne loseuse. Y a un mec un peu bizarre qui en fait est homosexuel. Donc super. On a la représentation des homosexuels.
Très étrange.
Non, très étrange. Mais alors, d'autant plus étrange qu'en fait, c'est un alien déguisé.
Est-ce qu'il est roux ?
Il n'est pas roux.
Alien, homosexuel.
Ouais, il manque plus beaucoup pour compléter le bingo. Mais et également un jeune.
Margoulin.
Un jeune assez. Comment dire ? Assez populaire, qui fait du sport. Cool kid. Non, mais un cool kid, mais d'aujourd'hui. C'est-à-dire un mec qui n'est pas vraiment notre pote, quoi.
Ouais.
Beau gosse. Alors, au début, je pensais qu'il était genre rebeu, mais en fait, pas du tout. Il est.
Indien.
Ouais, apparemment, parce que son père a un ruban. Un pur ruban.
Il fait juste de la gibre rythmique.
Eh ben écoute, tu crois pas si bien dire. Non.
C'est incroyable.
J'ai
des balles sur turban, il en fait un ruban, et là, bim, gibre rythmique dans la gueule.
Mon cerveau a fait une proue, je l'assume totalement.
Ça, c'est le premier papa. Le deuxième.
Ah oui, parce que c'est une série progressive. Il y a des papas partout. Tu veux un papa, t'auras un papa.
et vu qu'il fait de la gibre rythmique, bah forcément, ça ne trompe personne.
Puisque le son de papa, bien sûr, est coiffeur. Voilà.
C'est ça.
Et donc, qui fait du football, le fils, hein, pas le père.
Ouais.
Quoi qu'il pourrait. Hein,
ouais, voilà. Son turban.
Il en fait une boule. Et ils sont accompagnés également par une prof,
oui.
Mrs. Quill, qui est très bizarre, très étrange. Et qui
ça veut dire plume, ça, Quill.
Peter Quill. Je sais pas.
Voilà. Non ?
Je ne pense pas. Je pense que plume, c'est feather.
Oui, mais dans le sens plume d'écriture.
C'est possible.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Ink and Quill, il me semble que c'est l'encre et la plume.
C'est possible, mais je ne sais pas.
Voilà.
Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette faille et il y a l'alien.
Et un jour, il chope des pouvoirs. Et là, il y a un type chauve en fauteuil roulant qui arrive. Wesh, les gars.
Non. Et donc, l'enseignante est en fait le garde du corps de l'alien qui, en fait, est un prince d'une communauté alien qui a disparu.
Oui, ils sont homosexuels.
Non, mais vous allez vous calmer, oui. Et alors, c'est un petit peu, il l'avait annoncé lors de l'annonce de la série, c'est un petit peu la volonté de faire un mix entre, ben voilà, on fait un spin-off sur Doctor Who, mais on fait un petit peu de Buffy Vampire Slayer, ça se passe dans une école, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé ces deux premiers épisodes ? Bizarrement, alors que le public cible, c'est les adolescents, c'est la série Doctor Who,
oui.
Autour de Doctor Who, la plus gore qu'on ait vue. C'est genre, il y a des giclées de sang toutes les deux minutes, il y a des membres coupés, il y a des gens tués dans tous les sens. C'est
la puberté.
C'est la puberté.
Ton corps change, hein, tu as un bras au moins.
Mais c'est vraiment super... c'est super courageux, je trouve. C'est-à-dire qu'on prend pas les gamins pour des cons. C'est, eh ben oui, il y a des meurtres. Eh ben oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas genre...
papa ? C'est qui le papa ?
Non, mais... Donc, il y a d'une part ce côté un peu sanglant, mais aussi, on va pas les prendre pour des cons, du genre, ben oui, il y a des homosexuels. C'est un peu... Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui sont potentiellement... C'est pas fouillis non plus, c'est potentiellement intéressant. Maintenant, j'ai vu 2 épisodes, je ne suis pas encore rassuré. Saucé. Je trouve que... Ça se cherche encore beaucoup.
Okay.
L'image.
T'es fait... un homosexuel adolescent, voilà.
Comme quoi, c'est thématique. Bah non, si l'homosexuel, c'est éventuellement qu'il s'est possiblement trouvé.
Peut-être, peut-être pas. Enfin, tu connais son nom, pas sa vie.
Et.
Tu sais pas d'où il vient.
Je ne sais pas d'où il vient. Mais si, il le dit, il vient d'une planète lointaine.
Ce qu'il a traversé.
Et donc.
Il a réponse à tout, hein.
Le... Vous n'arriverez pas à me décourager. Je vais faire ma review. Même voilà. Si c'est probablement la review la plus déconstruite de l'univers des reviews.
Oh.
Ça,
l'univers est vaste, mon ami. L'univers est vaste.
J'irai loin.
C'est une review, mais il nous a quand même spoilé une grosse partie du truc, quoi.
Ah non, là, j'ai rien spoilé du tout. Non, mais vraiment.
Tu veux dire que dans les premières secondes de la série, on apprend que le gars, c'est un homosexuel d'une autre planète ?
Pas les premières secondes, mais du genre dans le premier quart.
Un sportif indien. Un alien homosexuel.
Une jeune black.
Tu m'as quand même gâché cette surprise que. Enfin, ce suspense. Est-ce qu'il est indien ? Est-ce qu'il est arabe ?
C'est ça. Et puisque là, on aurait fait monter la tension jusque. Boum, ruban ! Voilà. Et là, ça aurait été bien. Oh, putain, là, c'est le bingo, monsieur.
C'est le bordel. Déjà que le premier épisode.
Tu dis quoi ?
Ruban. Allez, on recadre. Hein ? Parce que les gens, à un moment, ils sont là pour écouter. Ils sont pas là pour rigoler. Ok ? C'est du sérieux, monsieur.
C'est vrai.
Donc, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien ? J'ai trouvé ça passable pour le moment.
Okay.
Le show a une facture bien trop propre. C'est-à-dire, c'est probablement le show de Doctor Who où l'image est la plus aseptisée.
Ouais, c'est un peu con, ça.
Elle est classe. Elle rend vraiment très travaillée, très belle. Il y a de beaux jeux de lumière. Mais par contre, ça ressemble à n'importe quel autre show qui aurait été produit par une chaîne américaine.
Mmh.
Et du coup, tu fais, ok, ouais. C'est dommage parce que justement, l'ambiance, la facture qui est autour de Doctor Who fonctionne vraiment dans le principe. C'est la facture avec tout le reste qui va nous faire aimer le show. Et là, malheureusement, comme ça ressemble à n'importe quel autre show, ça n'a pas sa particularité.
Par là, tu veux dire qu'ils perdent le côté kitsch ?
Ils n'ont pas vraiment de côté kitsch, bon, pour le moment.
On pourrait même aller jusqu'au dire que par certains moments, Doctor Who, c'est un peu une série d'auteurs. Quoi. Je veux dire, avant qu'il ne devienne showrunner,
oui.
Voilà, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave.
Moffat ?
Oui, Stephen Moffat. On reconnaît son épisode. On reconnaît
oui, c'est vrai.
Épisodes.
C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Non, en fait, il a véritablement une manière d'écrire, une manière de construire ses scénarios. Qui est propre à lui.
Voilà, et on reconnaît sa patte. C'est vrai.
c'est vrai. Mais là, pour le moment, à part éventuellement placer des pions,
ouais.
Les épisodes ne sont pas fous. Il y a du potentiel dans les personnages. Comme il y a des personnages qui voient son compagnon ou sa compagne décédée dans le premier épisode.
Ouais.
Eh ben, c'est pas genre à la fin de l'épisode, ah ben super, j'ai trouvé des amis, du coup c'est dans mon passé. Non, oui, c'est ouais. Genre au second épisode, le mec ou la fille, parce que je vais pas non plus trop d'informations,
ça.
Il va chialer. Il va éventuellement, quand les gens vont dire, hé mec, désolé, je comprends ce qui s'est passé, nanana,
ouais.
Il va dire, oui, merci, ok, c'est genre, fermez vos gueules, j'ai pas envie d'en parler.
Ouais.
Et plus tard, il va parler à son père. Enfin voilà, il y a tous ces éléments-là qui font que, pour le moment, je sens que ils ont vraiment envie de. Il y a beaucoup de bonne volonté sur la manière dont la série est écrite.
Ouais.
Pas encore, malheureusement, de réalisation folle.
Peut-être qu'elle se cherche encore.
Et je vais continuer à suivre le show,
ouais.
Par curiosité intellectuelle. Et parce que je pense que ça a le potentiel de vraiment donner quelque chose de bon. Mais pour le moment, c'est malheureusement passable. Sur les 2 épisodes que j'ai vus, le 3e vient d'apparaître sur les réseaux.
Sur les réseaux internet.com.
Que je regarderai, j'en parlerai Si la série vient à changer, genre ça devient absolument exceptionnel ou absolument nul, je viendrai à vous en parler dans l'émission. Voilà.
Merci.
Mais est-ce que vous, ça vous intéresse le peu qu'on en a parlé là ?
Bah, du coup, oui.
Des princes aliens homosexuels, ça m'intéresse.
La ouais. curiosité est là. Hein.
Moi, ça rentre directement dans mes critères pour un homme. Hein, moi, ce que je recherche, c'est des princes aliens homosexuels. Sinon,
mais c'est très ou trop spécifique. Parce qu'alors, tu risques d'être seul très longtemps.
C'est vrai. Donc, j'en ai croisé qu'un jusqu'ici. Il s'appelait Jérémy. voilà. Et en plus, je fais des rimes. C'est incroyable tout ça.
Ah, les slams, toujours les slams.
C'est ça. Abdel Slam.
Je crois que je vais le couper, celui-là.
Mais non.
Mais je vous propose
de passer
en critique
de l'épisode.
Exterminate. Donc, on parle aujourd'hui de The Unquiet Dead, donc épisode numéro 3 de la première saison du retour de Doctor Who, donc épisode avec Christopher Eccleston et Billy Piper, donc Christopher Eccleston dans le rôle du docteur et Billy Piper dans le rôle de Rose Tyler. Est-ce que quelqu'un veut allègrement s'atteler à un petit résumé de l'épisode ?
Jean Le Thomas.
Ah, il avait pas l'air saucé, tu l'as vraiment genre « Toi, je vais te pointer du doigt.
» Alors, moi, je vais passer le micro à tonton. Parce que tout ce qui est, je dois l'avouer maintenant, comme ça les auditeurs, ce sont des auditeurs, hein, c'est bien ça.
Oui, ce sont des auditeurs.
Ils vont apprendre à me connaître très vite les noms, à moins qu'ils me marquent à mort, genre David Tennant.
Mais est-ce que vous voulez, vu que je ne l'ai jamais fait depuis le début de l'émission, est-ce que vous voulez que je me charge de lui résumer ?
Donc Aristote va le faire. Parce que j'ai bien compris qu'on ne doit pas révéler le nom.
Oui, parce que nous sommes des agents secrets, même si on l'a déjà révélé dans l'épisode 2.
On a même révélé un numéro de téléphone qu'on a allègrement bippé.
Comme un sagouin.
Donc voilà, je vais laisser Harry le faire parce que tout ce qui est nom et période, enfin les dates et tout ça, je suis une clète. J'ai le droit de le dire,
clète ? Tout à fait, clète, c'est un mot acceptable.
Tu es complètement fou.
Alors, donc l'épisode se passe, donc l'histoire commence dans le TARDIS où le docteur décide de voyager à une autre époque que dans le futur puisque les deux aventures précédentes, bon, la première se passait dans les temps modernes.
C'est beau, putain.
C'est trop beau, cette cohésion. L'épisode numéro 2 se passait dans longtemps dans le futur et maintenant il décide de l'emmener dans le passé et il lui propose d'aller en 1960 à Naples. Il lance le TARDIS et forcément ça chie dans la colle, hein. Il termine à Cardiff en 1869.
Cardiff,
centre de l'univers, d'après Doctor Who. Et donc, ils arrivent à cette époque où Charlie Kent était en train de faire des...
Non, en train de déprimer, sur le coup.
En train de déprimer, mais on va en parler un petit peu, parce que justement, il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Et où, dans une morgue, en tout cas dans un bureau des pompes funèbres, je vais dire ça comme ça, les morts reviennent à la vie. Est-ce qu'on explique déjà tout le scénario ?
Bah oui.
Et en fait, donc, ces morts sont ravivés par des êtres faits de gaz, les Geltes, qui sont en fait des aliens qui avant avaient une enveloppe corporelle et qui maintenant, suite à la guerre du temps, ne sont plus que faits de gaz et sont dans une sorte d'univers parallèle, bloqués dans une faille.
Ce sont donc des hommes proutes ?
Ce sont des hommes de gaz. Mais franchement, les vannes, là...
Tu vas bipper ça aussi, dis-moi.
Je pense que je vais virer l'émission. S'il n'y a pas de tonton son dans l'émission numéro 4, vous aurez compris.
Tu peux le bipper. J'en suis pas spécialement fier.
Et donc, le docteur va essayer un petit peu d'intervenir pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe.
Ouais.
Et voir un petit peu pour sauver une nouvelle fois la Terre. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ?
Alors, j'ai trouvé cet épisode assez intéressant. J'ai marqué déjà mes quelques points. C'est ça que Tonton était très intrigué parce que je notais.
Oui.
Je sais pas par où je commence.
Par où tu veux.
Je les lâche comme ça les uns après les autres ou j'en lâche un et...
Un et après on va un petit peu en débattre.
Déjà, il me semble que c'est le premier épisode où ils intègrent le Bad Wolf.
Non.
Non.
Ah ben voilà, c'est là où... c'est un peu compliqué. Dans le premier épisode, il n'y en a pas vraiment. Dans le second, le petit être bleu dont on avait parlé dans l'émission 2 parle du Bad Wolf Theory, lorsqu'il s'adresse au Face of Bow, ou en tout cas il dit qu'il en a parlé avec le Face of Bow, et on sait pas de quoi ça parle, c'est juste pendant une conversation, genre on passe à côté, on l'entend, et là elle le dit, donc le personnage de Gwyneth en parle du Bad Wolf, et justement on en parlera quand on parlera du Bad Wolf, mais c'est un élément qui est semé tout au long de la saison,
tout à fait.
Et qui va
une intrigue
qui va se révéler totalement à la fin de la saison,
qui pour moi était décevante par rapport à l'attente que
on en parlera à ce moment-là si tu es présent.
Mais ça s'annonce mal.
Ça s'annonce mal pour toi. C'est ce que je vais péter la gueule.
C'est ça que je veux dire.
Oui, donc il y a cet élément de Bad Wolf, mais bon, qui est très secondaire.
Oui.
Tout d'abord, toi, est-ce que tu as aimé l'épisode ?
Oui. Oui. Ça... Dans la saison 1, j'aime plus ou moins tous les épisodes avec plus ou moins beaucoup d'amour.
Oui.
Celui-là, il y a de l'amour. Il y a clairement de l'amour dedans.
C'est un bon épisode. C'est pas un épisode c'est exceptionnel. Mais
déjà, il y a Charles Dickens. Donc...
Oui, qui est très réussi en plus.
C'est ça qui est vraiment un personnage sur le coup vivant dans la série. Ça, je trouve qu'il est bien reflété, un peu comme Churchill. Après ça, Churchill est encore plus swag. Parce que de base, Churchill est méga swag.
Charles Dickens aussi.
Oui.
Et méga swag.
Et méga swat.
Hein, unité spéciale.
C'est ça, il y a un petit pistolet mitrailleur, un casque, j'ai pas mal, il est paré. Hein.
Je vous le dis, aujourd'hui mon cerveau a décidé
de péter. Hein.
J'arrive même pas à terminer la phrase, quoi. Moi, il a décidé de. D'accord ?
Oui.
Voilà. Quoi qu'il se passe, c'est de la faute de mon cerveau. Mais justement, parlons de ce personnage de Charles Dickens. Quand il apparaît dans l'épisode, il est en déprime totale.
Oui.
Il parle de sa solitude. Alors je me suis permis de me servir d'internet, hein, si ça ne dérange personne.
C'est complètement malade.
Pour lui demander à cette période de la vie de Charles Dickens, donc en 1869.
Raconte-nous, Google.
Ok, Google. Voilà un petit peu où c'était dans sa vie. En fait, il était relativement solitaire à cette époque-là.
Oui.
Parce que il venait de vivre, enfin venait il y a quelques années, de vivre une séparation. Il avait divorcé de sa femme. En gros, c'était assez difficile parce que la famille de sa femme s'était vraiment immiscée énormément dans leur vie, dans leur quotidien, surtout la sœur de sa femme, et lui il n'en pouvait plus. Il essayait un petit peu, de beaucoup plus travailler pour essayer un petit peu d'avoir un exutoire.
Ça fait.
Et il y a eu un conflit à partir du moment où il a fait cadeau de bijoux à une de ses comédiennes.
Ah oui.
Et du coup elle l'a accusé de tromperie.
Tout à fait.
Et ça a été loin, puisqu'il y a eu séparation avec elle qui a pu garder les enfants. Et donc lui était extrêmement seul à ce moment-là. Il s'est défendu, il fait « Ah non, on n'a pas la réponse d'ailleurs sur le fait est-ce qu'il l'a vraiment trompé ou pas. » Mais lui disait que c'était simplement un cadeau pour le remercier de sa participation à ses dernières créations. Donc voilà.
Personnellement, je n'offrirais pas des bijoux juste pour remercier de... Bon, je sais pas.
T'es un homme généreux. Tu vas pas nous faire une Al, parce que Al disait que suite à des mails
que Mickey ne voulait pas que Rose lise, tout de suite ça voulait dire tromperie, quoi. C'est ce qui fait
bisous Al, hein, qui n'est pas là aujourd'hui et qui reviendra probablement l'émission prochaine.
Ce qui fait que du coup j'aimerais pas sortir avec Al, parce que moi si je lui dis on va pas voir mes mails. Pas quoi, hein, t'as quelque chose à me cacher, hein, tu me trompes.
Non, mais je trouvais en plus l'élément apporté dans le débat qui était intéressant, mais oui. Il a extrapolé, quoi.
Tout à fait. Bon, après, ça nous arrive tous.
D'extrapoler ?
Oui.
Non, mais excusez-moi, pour revenir là-dessus, je veux dire ma go, comme diraient les jeunes à notre époque.
Ah, tu parles comme ça.
Ah, non, j'ai appris récemment ce que ça voulait dire.
Ok.
Ma gonze, pour dire plus. Pour notre époque, on dit plus gonze, c'est pour les jeunes qui écoutent. Ma gonze se casse avec un alien et ne revient pas pendant plusieurs mois. Je prends ça un peu pour un râteau, j'ai envie de dire.
C'est vrai, ouais, mais là c'était pas encore. Enfin bon, sur cet épisode. Mais justement rapporter un petit peu plusieurs éléments. Comment dire ? On peut parler éventuellement du personnage de Gwyneth, qui est un personnage qui a des dons de voyance.
Tout à fait.
Et qui est interprété par une actrice dont j'ai totalement oublié le nom, mais on s'en fout parce qu'on n'est pas professionnel. Hein ? Le jour où vous donnerez. Ouh là là, j'ai du mal, mon cerveau.
Et le cerveau à prout, hein, aujourd'hui.
Allez, il a prout par milliers.
Est-ce que c'est vraiment des dons de voyance ou plutôt des dons de...
Divination
comment, de télé... plutôt télépathe dans le sens.
Ouais, parce qu'elle lit dans les esprits.
Oui. Et enfin, justement, ils ont joué dans. C'est ça qui m'a un peu perturbé dans cet épisode, c'est que il le montre un peu genre, oui, elle a des dons de télépathe, elle lit un peu dans l'esprit de Rose, elle communique avec les aliens.
Mm-hmm.
Et justement, vu l'époque, on va interpréter ça comme de la voyance, de la magie entre guillemets.
De la diabolerie. Ouais, mais... Alors qu'elle est peut-être juste un peu psycheur sur les bords, quoi.
Mais non, enfin, c'est expliquer ce qui se passe. C'est qu'en fait, elle a grandi toujours près de la faille. Et du coup, ça a fait en sorte qu'elle ait un moyen sur de communication entre les deux mondes, quoi.
Est-ce que tu cherches la faille? Est-ce que tu cherches la faille?
Mais c'est ça que j'ai pas trop aimé, c'est dans le sens où ils sont vite tombés dans le stéréotype de « Allez, on va faire une séance de spiritisme ». Ça, j'étais pas fan.
Bah, parce que c'est Halloween, quoi.
Oui.
Parce que c'est Halloween et puis aussi ça permet de confronter un petit peu à ce personnage qui est énormément cartésien, le personnage de Charlie Kent,
oui,
qui se refuse à toute création de l'imaginaire. Pour lui, tout est un tour de magie qui a son explication. Et du coup... Faire la séance de spiritisme appel aux fantômes, pour lui, c'est vraiment pour appuyer le fait que c'est inadmissible. Et c'est aussi éventuellement pour s'adresser au public de cette manière-là. C'est-à-dire, ben voilà, il y a ces choses qui, dans Doctor Who, font sens dans l'univers de Doctor Who, qui font partie, même si c'est des choses qui, nous, dans notre monde, ne nous concernent pas, qui font partie de la mythologie existante de cet univers-là. Et il joue un petit peu le rôle peut-être des parents un peu vieux jeu, un peu coincés, qui disent « Oh ben, c'est des trucs avec des aliens et des fantômes, ouais, c'est pas du sérieux tout ça. Ouais. » Alors que Charlie Kent, lui, c'est de l'art, c'est de l'art vraiment considéré par les intellectuels, quoi. C'est vraiment un truc qui a marqué. D'ailleurs, il pose la question à la fin de l'épisode, c'est « Est-ce que mes livres vont rester ?» Et Ty Colston qui dit « Ah oui, ils vont rester pour combien de temps ? Pour toujours. » Mais limite, il est un peu calme par rapport à l'impact que Charlie Kent a eu. Limite, il devrait dire « Vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes un auteur, un artiste important pour l'univers entier. »
Techniquement, il aurait pu, vu qu'il va crever une semaine après. Une semaine, c'est ça ?
Ils crèvent en 1870.
Oui.
Et là, ils sont à une semaine de 1870.
Il va bientôt crever, donc techniquement, il aurait pu lui dire « Écoute, tel papa de la littérature... »
Bah, c'est pas le papa, mais c'est l'un de ceux qui ont vraiment marqué l'imaginaire créatif. D'ailleurs, on connaît ça également dans l'épisode sur Vincent Van Gogh.
Oui. Ah oui,
où là ça va encore plus loin.
C'est ça, beaucoup plus puissant. Quoi.
Mais l'impact est incroyable. Encore maintenant... Je suis chamboulé à chaque fois que je pense à ce moment-là. Cet épisode est exceptionnel pour ça. C'est reconnaître l'impact d'un auteur d'un artiste comme Van Gogh, parce que forcément c'est un peintre, c'est pas un auteur. Mais il y a de temps en temps ces choses-là qui sont abordées dans Doctor Who. On va rencontrer des personnages historiques et artistes tels que Shakespeare,
ouais,
tels que Agatha Christie.
Oui, oui. Très bon épisode.
Et donc là, on a eu Dickens,
un hommage,
et Van Gogh. Mais surtout que, en plus d'être un hommage, ce sont des personnages, bon, à part Van Gogh, qui sont anglais. Et du coup, c'est un peu, on le dit toujours, mais s'il y a un show qui représente vraiment les Royaumes-Unis, si à un moment tu devais dire, il y a eu ça sur internet avec quelqu'un qui a dit j'ai marqué the most British picture ever, of the world, et il dit I was not disappointed, et il poste une photo de quoi, c'est une photo d'une rue, enfin un dessin d'une rue en Angleterre, lequel t'as le bus à deux étages, t'as les Beatles, t'as un TARDIS avec le docteur. Et enfin voilà, ça fait partie des choses.
Et du thé.
Et du thé.
Est-ce que c'est pas Baker Street ?
Ah, c'est possible que ce soit à Baker Street, je sais pas, ou à Abbey Road. Mais je ne sais plus l'image, ou alors c'était un truc lambda avec Big Ben dans le fond, enfin peu importe. Mais c'est l'une des choses qui représente le plus l'Angleterre. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve ça un petit peu dommage quand ils sont passés à la production de BBC américain, à partir de la saison 5.
Mais ouais, on
tu perds beaucoup de ce
truc-là. On a perdu une patte anglaise, on a gagné une patte américaine. D'ailleurs, la preuve, avec le cosmonaute impossible.
Ouais, dit Impossible Astronaut.
Ouais. Qui sort d'un lac au milieu de l'Oregon ou je ne sais quoi.
Ouais, c'est ça, quoi. Enfin, ils sont un petit peu, comment dire, internationalisés.
C'est ça. Après, ça me dérange pas. Que moyennement, parce que d'un autre côté, on gagne une mini-enquête avec le FBI comme ça.
Ce sont de bons épisodes.
La petite ambiance zone 61 auquel je suis...
51. T'as dit 61.
Zone 69. En fait, je pense c'est à cause de GTA San Andreas, tout ça. Ou c'est à la zone 69.
Ouais, c'est facile, monsieur.
Voilà.
Toi aussi, t'as des pets de cerveau aujourd'hui.
Oui, j'avais compris que t'as un petit cerveau. oui, j'ai un petit cerveau, c'est vrai. et bon, même si c'est des trucs qui se retrouvent plus dans des séries telles que Twin Peaks au niveau des USA ou X-Files, là c'est très la zone 51.
Absolument, oui.
Voilà. Mais c'est pas désagréable, c'est loin d'être désagréable, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de perdre cette anglicité.
Oui. Oui, c'est tout à fait ça. Juste une petite chose. Je pense qu'il y a un thème aussi important, c'est les auteurs en perte d'imagination. Là, Charlie Kent est sur la fin un petit peu de sa carrière, déjà de sa vie, mais en plus, il reconnaît la difficulté pour lui de créer à nouveau.
Ouais.
Et ici, je trouve que c'est intéressant quand tu
le dis. Clairement, il le dit, c'est fini. Au début de l'épisode, il fait c'est fini, je ne créerai plus.
Oui, il n'y arrive plus. Et je trouve ça intéressant quand tu remarques qu'en fait, ça s'inscrit dans une série qui doit continuellement se renouveler. Et qui existe depuis 1969.
Justement, moi, je voulais rebondir un peu là-dessus. Est-ce que tu ne trouves pas que cet épisode est un peu un parallèle, une adaptation de...
Je dis 69, mais ce n'est pas 69, c'est 63.
C'est pas 69, l'épisode ?
Bref. Non, mais quand je disais, là, je dis la série existe depuis 1969, ce n'est pas 69, c'est 1963, Docteur Who.
Ok. Moi, ce que je voulais dire, c'était, tu ne trouves pas que cet épisode, c'est un peu une adaptation de Un chant de Noël, justement, de Dickens, avec Scrooge.
Parce que les fantômes...
Non, mais ce côté... non, pas le côté fantôme. Oui, tu pourrais rajouter le côté fantôme, dans le sens où c'est un vieil homme qui, en une nuit, va... Sa vision, en fait, va complètement changer, sa personnalité.
Oui, mais tu n'as pas les étapes des différents... Des 12 fantômes de minuit, quoi.
Bah, t'as le côté.
C'est 12, hein?
C'est 3. T'as le passé, t'as le présent et t'as le futur. T'as le côté.
Les pets de cerveau. Je dis les pets de cerveau aujourd'hui.
Bah, si, tu peux les retrouver, entre guillemets, ces fantômes, ces aliens qui disent on a perdu nos corps suite à la Time War.
Et là, ce serait quoi, le passé?
Le passé, je dirais, entre guillemets. Ensuite, t'as le présent, c'est un peu cette aventure qu'ils sont en train de vivre. Et t'as le futur, cette partie un peu tardive, et le docteur. Voilà, on est trois à avoir des pets de cerveau. C'est le docteur qui lui dit, tu vas durer à jamais, entre guillemets. Et en plus, tu le vois ensuite dans le TARDIS part et tu vois Dickens qui enfin, il est plus déprimé. Quoi.
Il est heureux. Il a vécu vraiment une certaine paix de l'esprit. Où en fait,
nous, on subit des pets de cerveau. Ouais.
Où en fait, il comprend, il se dit, c'est ça, en fait. C'est les barrières qui s'étaient présentées à moi n'ont plus de raison d'être.
Ça fait.
J'aimerais revenir sur le personnage de Gwyneth, qui en fait est joué par une actrice qui revient plus tard dans Doctor Who, dans l'univers de Doctor Who.
Et non, Gwyneth Paltrow. Hein.
Non, pas du tout, heureusement. Puisqu'en fait, elle va jouer Gwen Cooper dans la série Torchwood. Donc, personnage principal de la série Torchwood avec Jack Harkness, donc John Barrowman. C'est pas la première fois qu'un acteur joue plusieurs rôles.
Alors en effet, parce qu'on peut penser à Peter Capaldi, hein,
qui a été dans Fire of Pompeii et qui après joue le docteur. Il y a également,
un tailleur de marbre.
Il y a également Karen Gillan qui joue dans Fire of Pompeii.
Amy.
Et joue Amy.
Ah oui. Ah, c'est incroyable.
T'avais jamais.
J'avais jamais tilté.
Mais oui, elle joue dans cet épisode-là, sachant que le record, je crois, en tout cas pour la nouvelle série, c'est Peter Capaldi. Il a joué un citoyen de Pompéi dans Fire of Pompéi.
Mm-hmm.
Il a joué un politique dans la saison 3 de Torchwood.
Ah oui.
Ouais. et qui est en gros un des personnages principaux de la saison. Et il a joué le docteur. Donc ouais. Ça fait quand même trois rôles pour un seul mec.
Est-ce que vous diriez pas que leur corps, c'est Clara?
Oui, mais elle, s'est assumé ouais. D'un point de vue scénaristique.
C'est ça, c'est Clara, du coup.
Mais soi, d'ailleurs, même pour Capaldi, c'est un petit peu assumé, parce que quand il se voit oui, pour la première fois, il se dit « Pourquoi ce visage ?» On essaye...
Du coup, est-ce qu'il dirait que c'est genre une banque d'images et qu'il se...
Mais, en fait, c'est Russell T. Davies qui a donné l'idée à Stephen Moffat. Et en fait, il lui a balancé cette idée-là en disant « Tiens, moi, c'est une idée que je voulais mettre en place, mais finalement, bah, voilà, je quitte le show avant. Est-ce que éventuellement tu penses qu'il peut en faire quelque chose ? » Il l'a introduit comme ça, après il ne l'adresse plus du tout. Peut-être que ici dans la dernière saison, il va faire quelque chose avec, puisque c'est la dernière saison de Moffat, hein, puisqu'il part du show. Faudra voir. Mais apparemment, donc, ce qu'il voulait éventuellement mettre en avant, c'est que le choix du visage a du sens par rapport à ce que le docteur veut faire. Et genre là, il se donnerait le visage de Capaldi par rapport à la décision qu'il y a eu à Fire of My Pays, du genre... Ben, n'oublie pas que tu étais tolérant, que tu as accepté de faire des écarts. Enfin, c'est une interprétation possible. Maintenant, c'est peut-être aussi rappelle-toi de tes erreurs, parce que sinon, c'est une erreur qui l'a mené à sa perte.
Ou
enfin, l'une des erreurs qui l'a mené à sa perte.
Ou c'est une excuse pour reprendre l'acteur.
Oui, oui, mais quand même, ça avait été adressé par Russell T. Davies, donc showrunner avant Moffat. Mais oui, oui, c'est... Enfin...
Dans tous les cas, ça sert d'astuce.
Oui, mais Moffat, il a toujours voulu avoir que Capaldi, hein.
Ouais.
D'ailleurs, il paraît que pour le rôle, il a auditionné personne d'autre. Il a dit à la BBC, moi je veux Capaldi, et puis c'est tout. Paraît-il. Et du coup, il a même pas fait, il a été à la BBC, il a dit, moi je veux ce mec-là. Il a même pas fait d'audition, il a rien fait. Et après, il a dit, bah, écoute, je viens de t'avoir le rôle pour Doctor Who. Sachant que Capaldi est fan de Doctor Who depuis très longtemps.
Je pense que rares sont les gens à qui on dit. Tiens, je t'ai eu le rôle pour jouer le docteur en prochaine saison, ça te dit ? Non,
mais japonais. Écoute, je voulais éventuellement en parler de ça, mais moi, je pense que si un jour tu me dis, tiens, tu peux jouer soit le docteur, soit le compagnon.
Tu joues le compagnon ?
Je joue le compagnon.
Mais déjà, non. Pour nous, c'est déjà spécial, parce qu'on est belge.
Oui.
Donc du coup, être d'une autre nationalité qu'anglaise et jouer le docteur, oui, c'est déjà bon, délicat.
Oui, oui, mais bon, imaginons qu'on soit anglais.
Et ensuite, c'est en soi des responsabilités, quoi.
Oui, ça... mais même au-delà de ça, je pense que c'est très particulier de jouer le docteur.
Ouais.
Imagine si après David Tennant,
ouais.
Smith se soit chié dessus. Du genre, il n'est pas vraiment pu...
Littéralement.
Ça aurait marqué le...
Le plateau. Ça aurait marqué le plateau et son pantalon.
Ça aurait marqué les médias anglais et internationaux. Non, mais imagine qu'il n'ait pas été aussi bon que ce qu'il a été.
Ouais.
Ça aurait été difficile pour le show. Parce que Capaldi, il a décidé de partir... Enfin, Moffat et Capaldi, ils ont décidé de partir dans quelque chose de totalement différent. Pas partir sur la même lignée. En fait, ils n'auraient pas pu... Avec la manière dont Capaldi joue, ça n'aurait pas été possible. Mais voilà, donc, du coup, c'est en effet une grosse responsabilité, mais c'est aussi une difficulté de dire comment on va jouer le docteur. Quand tu regardes les fanfictions et tout ça sur le net, il y a beaucoup qui font, en fait, c'est des copies un peu fans, mais bon, on va leur en vouloir. Je veux dire, ils n'ont pas les moyens de faire ce que la BBC fait, mais quand ils font des fanfilms et tout ça, c'est des sortes de... proto, enfin pas proto parce que c'est avant, mais des copies pâles de Tennant et Smith.
Il n'y
a personne qui fait, alors que moi je trouve ça très bête, moi j'ai des scénarios en tête dans lesquels mon docteur il serait pas comme Smith et
moi
Tennant.
Monsieur, moi j'ai des idées.
Mais non, mais je dis pas que c'est mieux.
Ils ont le pétrole, mais nous.
Non, mais attends, moi je dis pas que c'est mieux, je dis juste que c'est dommage.
Pour ceux qui ne connaissent pas, Aristote, c'est un peu le Trump de la Belgique. Hein. C'est moi,
ouais.
je m'auto-promote. C'est...
D'ailleurs, je vais construire un mur entre ma gueule et la tienne, parce que j'en peux plus. Non, mais tu vois, je trouve ça un peu dommage de devoir rester sur cette idée-là, alors qu'il y a des moyens de faire des trucs un peu fous. Enfin, imagine un docteur un peu réac, un peu pas violent, mais très peu compatissant.
Jean-Marie Docteur.
Non, tu vois quelqu'un qui est vraiment qui comprend pas du tout l'humanité, c'est un peu le cas de Capaldi au début, mais bon, qui comprend pas l'humanité, qui ne voit pas l'intérêt pourquoi favoriser l'humanité par rapport aux autres, parce que c'est presque toujours le cas. Et qui, dans les conflits, se dit, mais moi, j'interviens pas, quel que soit le conflit.
Un Suisse.
On a déjà...
Il va falloir qu'on... c'est une expression que j'utilise souvent, mais qu'on s'en hule, parce que... Voilà.
T'avais dit la même chose.
Exactement ça, oui.
Enfin voilà, mais pour revenir sur l'épisode, parce qu'on est parti dans des idées longues et compliquées.
Ah oui.
Ici, en fait, comment dire, sur l'épisode, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, du genre, Rose veut quitter le TARDIS, mais elle est habillée comme à notre époque. Et là, il va lui dire, par exemple, doucement, Barbarella. Du coup, il y a des références culturelles.
Ah oui.
À ce film de SF, c'était Jane Fonda, je crois. Et du coup, messieurs,
je sais pas, il parle anglais, il signe, mais je comprends pas.
Non, je voulais lui faire comprendre qu'on entendait quand il bougeait sa main sur le micro, on entendait.
Ah oui, c'est vrai. C'est tout. Voilà. Donc, attention, hein, oui, attention à ça.
Sur le coup, j'ai pas de retour, donc voilà.
Et donc, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, comme par exemple. À la fin de l'épisode, Rose, enfin c'est pas à la fin de l'épisode, mais à un moment de l'épisode, elle dit tout ne se passe qu'une seule fois. Par exemple, Noël de 1869, ça ne se passe qu'une fois, sauf pour toi, le docteur.
C'est début de l'épisode.
Elle dit c'est quand même fou, pour toi, ça peut se passer plusieurs fois. Tu peux revivre quelque chose qui s'est déjà passé. Et du coup, elle se rend compte de l'impact fou du voyage temporel possible par le TARDIS. Elle se dit mais c'est incroyable, il y a quelque chose de totalement fou. D'ailleurs, à un moment où elle se dit je peux pas mourir. Parce que je suis même pas encore né.
Ouais.
Et elle essaie de compter sur son incapacité à mourir parce qu'il y aurait paradoxe.
Ouais.
Alors qu'il dit il l'annonce comme ça. Genre il jette tous les paradoxes à la poêle et fait bah non c'est comme ça. Bah, t'es né bien après tu seras mort bien avant ta naissance. Mais c'est comme ça. Parce que le tout n'est pas qu'une seule ligne.
C'est ça. Mais
c'est plein d'embranchements différents.
Là encore, en fait, c'est exact et c'est faux, dans le sens où tout ne se passe qu'une seule fois. Le docteur peut vivre les choses plusieurs fois, donc il pourrait vivre le Noël de 1992, admettons, trois fois. Sauf que lui-même ne sera pas la même personne et son expérience du Noël de 1992 sera différente vis-à-vis de son propre vécu.
Il y a un jeu là-dessus qui est fait dans l'épisode Father's Day.
Oui.
Où ils revont au même endroit,
ouais,
plusieurs fois. Et y en a d'autres aussi où c'est fait. Mais...
Et un autre aussi avec, je pense, avec David Tennant, justement, encore une fois. C'est quelques coïncidences.
Ouais.
Non, mais il rencontre un homme qui s'appelle le docteur aussi. Et alors il se dit, ah, ça va être ma prochaine...
Oui, cet épisode s'appelle The New Doctor. The New Doctor, et en fait c'est un mec qui n'est pas le docteur, c'est un mec qui croit être le docteur
après avoir été genre frappé par des tubes de mémoire
dans lesquels sont contenues des informations
et justement,
du docteur.
C'était un épisode très intéressant justement où il se dit ah merde, je peux rien dire, mais il regarde aussi, c'est comme ça que c'est à ça que je vais ressembler.
En même temps, tout ce qu'on dit avec le fait que le docteur pourra ne pas vivre plusieurs moments où il y a eu deux docteurs, c'est jeté à la poêle par l'épisode des 50 ans. Mais je pense que l'épisode des 50 ans.
Par celui-là, en fait. Il y en a plusieurs.
Mais entre autres, cet épisode-là. Alors que je trouve ça un peu dommage. Moi, je trouvais que c'était un bon épisode, l'épisode des 50 ans. Mais en plus, c'est un peu dommage parce que ça jette à la poubelle pas mal des choses qui sont les règles de Doctor Who.
C'est ça. Et moins il y a de règles, plus c'est difficile d'écrire.
Oui. Parce que forcément, quand tu as trop de liberté, qu'est-ce que tu fais ?
Mais justement, parlant de règles, l'épisode de Father's Day avec ces sortes de vampires temporels.
Oui, on en parle dans une de nos émissions, justement.
C'est la deuxième, justement, je pense, non ?
Je ne sais plus. Ou en fait, c'est totalement dommage. Tu as ce principe-là du. Ben voilà, il y a paradoxe. Donc, il y a ces êtres qui apparaissent pour pouvoir équilibrer et. Annihiler la source du paradoxe. Et puis après, il y a d'autres paradoxes qui apparaissent, mais c'est pas du tout ça qui se passe. C'est dommage parce que il y a beaucoup de principes qui étaient intéressants, qui pouvaient être développés par rapport à ça.
Mm-hmm.
Du genre, à chaque épisode, il y aurait ce risque du genre, ah, mais ne fais pas ça, sinon ça fait paradoxe. Et en fait, pas du tout. Il y aura paradoxe, oui, peut-être, on verra les implications. Et ça, c'est dommage.
Puis on aurait pu avoir une police temporelle avec. Avec Jean-Claude Van Damme, avec un mulet qui serait venu à Time Cop, c'est le tout. Et là, ça aurait été bien. Là, ça aurait été beau.
Là, ça aurait été incroyable, monsieur.
Ça aurait été beau, ça aurait été très beau.
Alors, également, donc, on a parlé un petit peu de, du scénario, mais on peut un peu continuer. L'épisode, en fait, ce qui se passe, c'est que ces êtres de gaz qui prennent possession des corps sont les Gelth, qui étaient une société, des êtres qui faisaient partie d'une planète qui avait forme humaine avant la Time War et qui maintenant sont des êtres de gaz et en fait
éthérés.
Oui. Et en fait tout ça c'est donc dû à la Time War dans laquelle le docteur a eu un rôle. Du coup, on peut dire qu'il est responsable de ce qui s'est passé pour ce peuple-là.
Justement, deux choses à ce niveau-là. Une que je comptais en parler justement. On voit clairement dans cet épisode-là que le docteur se sent obligé de les aider.
Oui.
Parce que. Bah,
mais il y a un jeu de regard entre Rose et lui. En fait, il fait culpabilité, il reconnaît sa culpabilité. Et voilà. Mais.
Et justement, il va avoir ce clash avec Rose tout de suite après, où elle n'est pas d'accord qu'ils utilisent les cadavres comme vaisseau de transport.
Oui.
Et lui vient lui lâcher.
Mais il dit pourquoi pas. Il y a un mini discours où il dit voilà, tu es donneur d'organes, mais c'est pas la même chose, fais quoi ? Et c'est du recyclage, c'est la même chose. À quoi ils te servent si tu es mort ? Une fois qu'ils sont morts, à quoi te sert le corps ? À rien. Et là, c'est l'important, c'est le principe. Mais non, ça n'a aucun principe. Tu as des gens qui peuvent le prendre et tu vis, tu sauves quelqu'un.
Et ça va même plus loin parce que là, il va clairement lui dire t'es pas content, tu te casses, quoi.
Ouais, c'est presque ça, ouais.
Je trouve ça assez intéressant aussi parce qu'elle, tu vois, sa gueule est genre ok, d'accord. J'ai pas vraiment mon mot à dire pour l'instant. Elle n'est pas vraiment entièrement intégrée dans l'équipe. C'est toujours un peu une consultante, entre guillemets.
Oui, mais c'est quelque chose qui va beaucoup évoluer.
Oui, bah clairement. Jusqu'au point de devenir...
quelque chose.
Voilà.
Qu'on abordera quand...
En temps voulu.
Autre truc que je voulais dire avec cette race alien, j'ai oublié le nom, tu l'as dit.
Les Gelth.
Les Gelth.
G-E-L-T-H, me semble.
Un truc que j'ai retrouvé génial, c'est que dans peut-être la saison qui va arriver... qu'on les rencontre, que le docteur vienne visiter leur planète ou quoi, avant la Time War.
Mais s'ils ont été victimes de la Time War, alors normalement ils sont pris en...
dans la
boucle. Ouais.
Pas forcément. Parce qu'en fait, la Time War, elle a commencé avant...
Alors ils auraient pu les sauver, parce que vu que la Time War...
Non, pas ceux qui...
Ou alors c'est un point fixe, mais...
ils n'auraient pas pu les sauver. En fait, la bulle, elle bloque...
La bataille pour Gallifrey.
Ouais.
Où il y a normalement tous les Daleks, mais
une partie voilà. Des Daleks. Comme il devrait y avoir aussi tous les Time Lords, mais pourtant il y en a d'autres qui apparaissent.
Oui, il y en a deux. Bah, et à un moment, ils trouvent un moyen de s'en échapper. Je sais pas.
Mais ça, c'est aussi le fait de la continuité rétroactive. Ça, en fait, c'est des choses qui ont été décidées après des scénarios qui les sortent de la bulle. Du coup, tu peux pas imputer à cette décision les erreurs de décision préalable. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que finalement, tu te dis, ça fait mentir certaines décisions préalables. Le problème, sur une série aussi longue, c'est forcément il va y avoir des choses qui... Ça me rappelle, en fait, pour Marvel, Stan Lee donnait un prix, disait, si vous avez trouvé les incohérences de notre univers partagé, envoyez-nous un courrier et vous recevrez un prix. Au début, il le disait parce que tu avais 2, 3, 4, 5, 6 dizaines de titres avec un numéro mois. Ouais. Et puis quand ça commence à se multiplier, les incohérences étaient obligatoires.
Tout à fait.
Parce que c'était plus possible. Et eux aussi, t'es content de pouvoir en faire des incohérences quand ils se rendaient compte que les mœurs avaient évolué et qu'en fait le personnage qu'ils avaient créé 10 ans, 15 ans auparavant, c'était super raciste et qu'en fait ils s'étaient pas rendu compte à l'époque. Et du coup, ils se disaient, ok, on peut gérer ça. Des incohérences dans une série aussi longue que Doctor Who, on va avoir des tonnes. Mais bon, des fois pour les bonnes raisons, des fois pour de mauvaises. Quand c'est pour de bonnes raisons, tu dis ok, j'accepte que ça change.
Ouais.
Quand c'est pour de mauvaises raisons, tu dis pourquoi avoir fait ça. Je veux dire, c'est logique qu'ils aient abandonné le nombre de régénérations possibles.
C'était une idée stupide.
Ils savaient pas que ça allait continuer à
Vivre l'éternel. D'un autre côté, oui et non. D'un autre côté, regarde les docteurs. Première génération, je veux dire. Il y en a combien ? Il y en a 8.
Avant Eccleston ?
Oui.
8,5 si tu considères le War Doctor.
Et donc, du coup, ce qui fait que mais juste au niveau de la série, il savait qu'il était possible de faire 8 docteurs différents en une seule entre guillemets série. Donc du coup, c'était un mauvais pari, je vais dire, que de dire ah ben maintenant on dit qu'il n'a plus droit que 12 générations, régénérations, et puis la prochaine fois, si on doit en refaire une au pire, on lui donne une carte Monopoly, et puis c'est fini quoi.
Ouais, c'est un truc qu'il fallait abandonner.
Oui.
C'était abandonné, maintenant on te dit ah ben c'est pas respecté, blablabla. Je comprends, parce que finalement ça montre les incohérences d'une série comme Doctor Who. Mais en même temps, si c'était conservé, on aurait la fin de la série. Quoi.
D'un autre côté, à partir du moment où il y a voyage dans le temps, il y a incohérence.
Mais à partir du moment où il y a des séries aussi longues que ça, il y a incohérence. C'est une série qui est là depuis 1963, c'est quand même.
Oui.
C'est quand même fou comme truc. Enfin bon, moi j'ai pas dit, mais j'ai bien aimé cet épisode.
Oui, c'est vrai.
J'ai eu beaucoup de difficultés quand même. Je n'avais pas un souvenir assez fou. Je trouve que c'est un bon épisode qui n'a pas trop d'impact. C'est un épisode normal de milieu de saison. L'ambiance est relativement bonne. Enfin, je veux dire, est bien retranscrite.
Oui.
Tu crois au décor que tu vois. L'enquête est plutôt cool.
Et le docteur, c'est pas le docteur qui sauve tout le monde à la fin. C'est justement le Charles Dickens, ce personnage secondaire.
Qui vient avec l'idée de se dire si du gaz avait explosé.
Voilà.
C'est pas non plus l'idée du siècle, je veux dire, c'est logique.
Qui montre un peu son instinct terroriste, quand même.
Mais c'est surtout Gwyneth.
Je veux dire, le docteur est sur le point de devenir un zombie.
Oui.
Clairement.
Oui.
Et si Charles s'était pas ramené avec son idée de gaz, son idée de paix.
Je
veux dire, la série aurait fini beaucoup plus tôt.
Tout est thématique, même nos pets de cerveau.
C'est ça. Thème Halloween, mais non monsieur, c'est bien trop mainstream, nous on fait des thèmes prout. Voilà, on est dans le vent.
Vivant, mais le prochain aussi sera un thème prout, puisque le prochain
Déjà les Citizens.
Les Citizens, oui. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez aborder?
Crac, c'est Corico fait la pâte au Russe.
Merci bien. Oui monsieur.
Non.
Voilà, je pense qu'on peut éventuellement clôturer l'épisode. Une dernière chose à dire, un truc à rajouter par rapport à l'épisode, à ce qu'on va aborder bientôt.
Amsterdam.
Moi, je voulais juste vous remercier de m'avoir accueilli parmi vous.
Mais c'était avec plaisir. Ça fait longtemps que j'ai envie que tu participes à l'émission, donc moi, je suis assez content que tu sois là. On va voir un petit peu. Normalement, la prochaine fois, Al reviendra, j'imagine. On va essayer de faire une émission bientôt. La prochaine émission sera une émission double. Je vous l'annonce. Et oui. Puisque, en fait, je nous vois mal parler pour un double épisode de la partie 1 et puis de faire une deuxième émission pour la partie 2. Je pense qu'on va aborder les deux d'un coup. C'est beaucoup plus logique. Et donc, comme ça, on aura peut-être une émission un petit peu plus longue. Donc voilà. Un dernier mot ?
Chameau.
J'aime pas Rose.
Jus. Allez, on se revoit dans quelques semaines.
Alors quelques semaines.
Bisous bisous.
Je vous aime.
Bisous bisous.